de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Fin 2012 paraissait le journal inédit de Romain Rolland, couvrant la période 1938-1944, intitulé « Le journal de Vézelay », édition établie par Jean Lacoste, publiée chez Bartilla. Créateur de Jean-Christophe, lauréat du prix Nobel 1915, la même année où il avait publié son manifeste pacifiste « Au-dessus de la mêlée », Romain Rolland notait dans son journal de Vézelay les tragédies de l'heure, mais aussi les petites histoires du village. En 2002, Roger Dadoun consacrait une vie, une œuvre à Romain Rolland, l'Européen.
Une vie, une œuvre, Romain Rolland, l'Européen. Une émission de Roger Dadoun, avec la participation de Claire Basquin, Bernard Duchâtelet, Martine Liégeois, Catherine Massip, Maryse Mathé et Serge Nimetz.
Je suis né en 1866. De 1866 à 1936, l'espace parcouru n'est pas moins gigantesque qu'il ne le fut de 1760 à 1830. Si nous remarquons davantage à distance la grande chaîne de montagnes convulsées que furent la Révolution française et les guerres napoléoniennes, croyez que ne paraîtra pas moins saisissante à l'avenir l'époque qui a vu le réveil de l'Asie, la Révolution soviétique et la guerre mondiale qui a remué jusqu'en ses profondeurs la civilisation.
Romain Rolland, c'est avant tout, pour nous, une œuvre considérable qui se déploie sur plusieurs registres. Une œuvre romanesque, avec Jean-Christophe, roman fleuve dont les 10 volumes sont publiés par Peggy dans les Cahiers de la Quinzaine de 1904 à 1912. C'est l'autre massif romanesque, L'âme enchantée, publié dans les années 20, sans oublier le très célèbre Colabrognon, Pierre Hélus, Clérambeau. Une œuvre théâtrale, commencée très tôt, avec des drames comme Empédocle, Orsino en 1890, Les Balioni en 91, Caligula en 93. Ce sont les tragédies de la foi, avec le Saint-Louis en 95. C'est l'imposant théâtre de la Révolution, depuis Les Loups de 1899 à Robespierre en 1939. Une œuvre de biographe avec des récits de vie héroïque. Beethoven, Michel-Ange, Handel, Gandhi, Peggy. Un Peggy terminé juste avant la mort de Rolland en 1944. Une œuvre de musicologue avec sa thèse consacrée à l'histoire de l'opéra. Des études sur divers musiciens et surtout sa monumentale et savante étude sur l'œuvre de Beethoven, les grandes époques créatrices. Une œuvre autobiographique avec le voyage intérieur, les mémoires et son journal livré au public en 2001. On peut aussi parler d'une œuvre de penseur avec des essais sur Empédocle, Spinoza, ses réflexions sur la mystique en Inde autour des grandes figures de Gandhi, de Ramakrishna, de Vivekananda. Ses textes militants, notamment le fameux « Au-dessus de la mêlée » qui demeure une référence majeure pour tous les pacifismes. Il faudrait encore citer une de ses œuvres les plus caractéristiques, à savoir ses correspondances avec d'innombrables et souvent éminents interlocuteurs, correspondances réunies dans une trentaine de volumes. Cette œuvre immense, polymorphe, polyphonique, Rolland l'inscrit sous le signe de l'unité. Il parle de panhumanisme pour marquer sa volonté de dépasser les conflits de frontières, de races, de communautés, d'idéologies, à l'échelle planétaire, certes, mais d'abord à l'échelle de l'Europe. Là réside sans doute sa plus forte et sa plus concrète passion. Il se sent, il se veut, il se doit d'être européen. Et il est surprenant qu'à l'heure même où l'Europe revendique son unité en la monnayant, si l'on peut dire, Romain Rolland demeure hors jeu, fasse l'objet d'une sorte de quasi-rejet. Il y a sans doute à cela plusieurs raisons, d'ordre littéraire, historique, idéologique, ou qui tiennent aussi aux foucades de la mode. Mais il est probable que Rolland paye de la sorte l'étroite liaison qu'il a entretenue pendant longtemps avec la politique de l'Union soviétique, au point de figurer, aux yeux notamment des dissidents et de l'opposition en URSS, le compagnon de route exemplaire et donc le complice du stalinisme. Stalinisme, c'est-à-dire avec le nazisme, l'horreur de l'histoire contemporaine. Qu'en a-t-il été exactement, Bernard du Châtelet, vous qui avez réuni sous le titre « Voyage à Moscou » différents textes de Rolland sur le sujet?
Il faut, quand il s'agit de Romain Rolland, être très prudent. Surtout lorsqu'il s'agit de parler de sa relation avec l'URSS. Elle remonte assez loin dans le temps, dans sa vie, puisque dès la Révolution russe, en 1917, il salue cette libération. Mais très tôt, il se rend compte que cette libération entraîne violence. Et il prend ses distances. Puis il se rend compte, il croit voir dans la Révolution finalement une marche en avant de l'histoire, et tandis que les démocraties occidentales lui semblent s'assoupir dans leur décadence, il voit en l'URSS une promesse de vitalité. L'URSS lui paraît, à partir des années 25-27, être précisément le creuset d'où va naître une nouvelle vie pour l'Occident. Et sa réflexion l'amène à accepter ce qui n'est pas encore à l'époque l'inacceptable, mais qui le deviendra très vite. Il l'accepte et peu à peu, il se laisse prendre dans l'engrenage. Il s'y laisse d'autant plus prendre que dans sa vie entre une femme russe, Maria Koudacheva. Elle a compris, et sans doute derrière elle d'autres avaient compris, que Romain Rolland pouvait être une pièce importante dans, j'allais presque dire, la désinformation du public concernant la révolution russe et l'évolution de ce qu'il faudra bien appeler le stalinisme. Et Marie Koudacheva, qui est du clan de Gorki, Gorki qui vient de se rallier à Staline, l'enchaîne petit à petit. Et Romain Rolland se laisse faire.
Il n'y a pas une certaine tendance à trop focaliser sur le personnage de Maria Koudacheva, devenue Marie Romain Rolland, au point de dire qu'elle a été en quelque sorte l'agent de la police politique stalinienne.
Non, je n'irai pas jusque-là. Et il y a, dans L'âme enchantée, un passage extraordinaire où Romain Rolland parle d'Assia et de Marc. Assia, c'est, tous les brouillons le marquent, elle s'appelait Dasha d'abord et même à un certain moment Macha, le surnom affectueux que Romain Rolland donnait à Marie. Or Assia, c'est Romain Rolland qui le dit, se réjouissait de voir que d'une certaine manière, il, Marc, voulait ce qu'elle voulait de lui et ce que lui ne voulait pas être. L'action l'avait emporté sur la pensée.
Or, l'action, à cette époque, c'est tout de même le fait qu'il fallait lutter contre le fascisme. Il ne faut pas oublier que Romain Rolland s'est voulu plus peut-être qu'un compagnon de route exemplaire sous l'influence de Maria Koudacheva, qui était par ailleurs celle qui lui fournissait la documentation dont il avait besoin, il a été un militant antifasciste. Et il a pris position de manière publique, fréquente et vigoureuse sur le problème du fascisme. C'est peut-être d'ailleurs son argument essentiel, comme il est l'argument essentiel de tous les staliniens qui se sont ralliés à la politique de Staline en faisant valoir, en excipant de leur antifascisme.
S'opposer au nazisme, s'opposer à Mussolini ne signifiait pas se courber devant Staline. Mais il n'empêche que dès 1936, dès le premier procès de Moscou, Romain Rolland revient un petit peu en arrière et réfléchit. 1937, et puis la mort de Gorki, et puis différents procès successifs, d'autant plus qu'il s'aperçoit que tous les gens qu'il a rencontrés chez Gorki passent les uns après les autres, sont finalement condamné, et condamné à mort. Romain Rolland se rend compte de ce qu'est la vraie nature du stalinisme. Mais peut-il, et c'est là l'autre piège, peut-il, au nom de l'affection de Marie, qui a son fils en URSS,
on pourrait dire en otage,
peut-il revenir en arrière? Après le pacte germano-soviétique, qui est pour lui l'horreur, car Staline est l'équivalent de Goebbels, de Göring, d'Hitler, à l'époque. Romain Rolland dit « J'écrirai bien un nouvel au-dessus de la mêlée. » Mais puis-je l'écrire? J'ai un otage. Il l'écrit, dans son genre. J'ai un otage à Moscou. Mais si j'avais à l'écrire, voici ce que je dirais. Et ce nouvel au-dessus de la mêlée, en quelques pages, il le résume dans son journal. Dans le secret de son journal. Le seul qui ait vu clair déjà précédemment, en 1936... C'était Roger Martin Dugard. Alors que tout le monde célébrait le compagnon de route, Roger Martin Dugard disait bien « Vous n'êtes pas celui que l'on hisse sur le pavois révolutionnaire. Je sais que vous êtes quelqu'un d'autre. » Et à la même époque, alors qu'en 1939, Roger Martin Dugard envoie à Romain Rolland la fin des Thibauts, c'est Romain Rolland qui salue Roger Martin Dugard en lui disant « Vous au moins, vous avez jusqu'au bout réussi à être l'indépendant irréductible. »
Romain Rolland parle de la guerre d'Espagne.
Défendre le peuple d'Espagne, c'est défendre la paix. La paix de France et d'Occident. La paix du monde. À la défense de la paix. À la défense des démocraties. Soutenons ceux qui se sacrifient pour la défense de notre cause commune, pour la justice sociale et la liberté.
Romain Rolland a évoqué avec émotion, dans son texte autobiographique Le Voyage intérieur, qui porte en sous-titre Le songe d'une vie, les paysages de son enfance, avec d'autant plus de lyrisme que le premier sentiment qu'il retient de cette enfance, il exprime en ces termes « Je suis prisonnier ». Prisonnier de sa poitrine oppressée, de la vieille maison, prisonnier du cercle maléfique de la mort. Et il trouve consolation dans la musique et dans la contemplation de la nature, ce paysage, dit-il, de beaux reflets et de souples collines. C'est un paysage que vous connaissez bien, Marise Mathé, pour y avoir passé votre enfance.
Non seulement y avoir passé mon enfance, mais j'y suis née et j'ai commencé mes études secondaires au lycée Romain Rolland de Clamecy.
Vous n'avez pas manqué de relever dans une de ses premières pièces, Saint-Louis, une allusion à ce paysage d'enfance.
Eh bien, Saint-Louis, c'est une des tragédies de la foi qui date de 1895. Et dans cette pièce, en effet, il fait dialoguer Thibaut de Brève avec Mathieu de Coucy dans un camp de croisés en Terre Sainte. Alors c'est l'occasion bien sûr pour Romain Rolland d'évoquer les paysages de son enfance et de ce Morvan en pays nivernais. Alors si vous voulez, je vous en lis un extrait. « Ô Morvan, colline bleue, rivière transparente, saule de pâle argent, comme un ruisseau léger, voûte profonde des forêts, auguste bourdonnement des cloches de Vézelay, qui dresse sur son roc au-dessus de la plaine sa sainte cathédrale aux deux puissantes tours, chant lointain qui me vient de mon doux Nivernais. Alors c'est une description effectivement très évocatrice des collines de l'Orme, du Mont Sabot, de Vézelay, des paysages de ses ancêtres, puisqu'on peut le rappeler, il est né à Clamecy en 1866, mort fin 44 à Vézelay et enterré au petit cimetière de Brève qui est entre les deux.
Dans Saint-Louis, le roi de France annonce au pape qu'il part en croisade et il poursuit
« Ta volonté soit faite, Seigneur, tu sais seul ce qu'il te convient de faire. Daigne veiller sur le peuple que je laisse. Sois le bon pasteur qui garde ma bergerie. Ô mon peuple, tu vas quitter ta douce France, la bonne terre dont notre chair est faite et sous laquelle dorment nos morts et nos souvenirs. Le moment est venu. Nous allons nous confier à la mer infinie. Maintenant, haussons nos cœurs et nos yeux vers le ciel. La voici désormais notre nouvelle patrie. »
Le théâtre a été une de ses premières activités. Très tôt, il se met à écrire des drames. Ça commence déjà en 1890 avec Empédocle. Ensuite,
eh bien, c'était en effet sa forme d'art préférée. Il disait lieu d'élection de la grande magie qui fait surgir le rêve vivant des autres vies. Alors il y a eu Orsino, il y a eu les Baglioni, Caligula.
Il y a en 94 le siège de Mantoue, 95 Saint-Louis que nous avons évoqué, un Savonarole en 1896, Jeanne de Pienne en 96, Les Vaincus en 97, Aerte en 98, Les Loups en 99, et cela va jusqu'au Robespierre de 1939.
Alors, avec l'ensemble intitulé Les Tragédies de la Foi, qui comportait Saint-Louis notamment et puis Aerte, on a le Théâtre de la Révolution, qui est un cycle de 8 pièces qui devait en comprendre 12. Elles sont écrites dans le désordre et puis recomposées successivement, avec le prologue Pâques Fleury, 1926, puis le 14 juillet, 1901, Les Loups, 1898, Le Triomphe de la Raison, 1899, Le Jeu de l'Amour et de la Mort, 1924, Danton, 1899, Robespierre, 1939, et l'épilogue des Léonides, 1928. Alors, ce cycle renferme en effet les 20 années de la Révolution française, des origines dans les années 1774, avec, rappelons-le, dans Pâques Fleury, le précurseur halluciné, Jean-Jacques Rousseau, qui vit la crise et la fin de l'Ancien Régime, jusqu'au déclin de cette révolution de 1793 à 97 sous la Terreur, avec Robespierre qui est le dernier protagoniste de la dernière pièce écrite par Romain Rolland en 1939. Et le rôle a été interprété en 1943 par un Michel Bouquet, frais sorti du conservatoire, acteur intransigeant qui a 18 ans, donc a joué le rôle de Robespierre, qui en avait 36.
Un certain nombre de ses œuvres ont été jouées. Il ne faut pas oublier notamment qu'au début, Aerte est monté au Théâtre de l'Œuvre, Les Loups au Théâtre de l'Œuvre encore, Le Triomphe de la Raison au Théâtre de l'Œuvre, Danton à l'École Normale puis au Théâtre Civique, le 14 juillet est monté au Théâtre de la Renaissance. C'est une pièce qui donne lieu à des interprétations musicales, avec notamment des textes musicaux de Darius Milhaud, Jacques Ibert. Mais curieusement, avec le temps, il semble qu'on ait négligé de monter, de jouer Romain Rolland. Sauf peut-être à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, où Robespierre a été repris au théâtre bien intitulé Romain Rolland de Villejuif, et Les Loups au théâtre populaire du Midi.
Voilà.
Les Loups, c'est une pièce particulièrement importante dans l'œuvre de Rolland.
Alors, c'est une pièce importante parce qu'il transpose, en effet, l'affaire Dreyfus, mais ce n'est pas le sujet de la pièce. Elle est transposée en 1793. On y voit s'affronter, en effet, deux conceptions du politique. Le problème des rapports entre le pouvoir et la vérité, la fin et les moyens. Le triomphe de la raison qui a fait l'objet d'une mise en onde à France Culture, avec des acteurs de la Comédie française. Dans cette pièce, on apprécie naturellement la manière dont Roland donne vie, surtout à des personnages, et surtout poussé jusqu'au pathétique et même au carnavalesque. Dans Le triomphe de la raison, on a aussi un titre parodique, c'est-à-dire que Romain Rolland met énormément d'ironie dans son théâtre.
Interrompez un moment vos innocentes joies. Jeune vierge dont le front rayonne de doux éclats du plaisir, dénouez vos danses, qu'une touchante émotion tempère vos ébats. Défenseurs de la patrie, amenez près de nous vos compagnes, et vous, vénérables vieillards, faites couler de vos yeux desséchés une onde pure et attendrie au spectacle du bonheur préparé à votre postérité. Mais vous, tendres élèves de la patrie qui cueillerez le fruit de nos labeurs titaniques, prenez les premières places, remplissez vos regards, contemplez la victoire de l'humanité. Ô vue sublime, ô peuple délivré, et toi, fille de la nature, mère du bonheur et de la vertu, ton empire t'est rendu douce et sainte raison. Le temple de l'imposture est devenue la maison de la vérité. Sur cet autel, monument de servitude, naguère encore paré d'idoles juives et sanglantes, s'élève maintenant ce chef-d'œuvre de la nature, ce corps pétri par les mains de la beauté, qui n'évoque que des idées souriantes, de charmantes voluptés et de chastes de plaisir. Ô enthousiasme qui m'embrase, belle citoyenne, pardonne à mes transports. Je t'embrasse, raison, au nom du genre humain.
Dit Lully est une pièce qu'on ne peut pas ranger ni dans les tragédies de la foi, ni dans le théâtre de la Révolution. C'est une pièce, pourrait-on dire, quasiment marginale, qu'il a écrite au lendemain de la guerre, en 1919, et dont Bernard Shaw, qui s'y connaissait, disait « Lully est colossal, grossartig, wunderschön, magnificent. Je l'ai goûté énormément, sans réserve, avec extase. » Cette pièce très carnavalesque, très proliférante, très polyphonique, d'une très très grande richesse d'invention, est, semble-t-il, à peu près négligée par la plupart des gens de théâtre, alors même qu'elle semble toucher au cœur même de notre civilisation, des médias, de notre civilisation, de l'opinion.
Dans Lully, l'opinion, l'opi, comme la nomme Rolland, précise apparition hallucinante, rôle muet, idole barbare et hindoue, grossière et somptueuse. Mais ça, c'est la télé, effectivement, comme vous dites, les médias. Une distribution fastueuse avec Maître Dieu aux côtés de l'âne Buridan et de Polichinelle, les galipoulets face aux hurluberloches, le cœur des intellectuels et des marchands, les gras, les maigres et la vérité, la liberté, enfin l'égalité, la fraternité. Les facultés humaines dans cette pièce sont tournées en dérision.
Voici les petits dieux, qui veut, pour tout, pour tous, pour la cuisine et la gésine, pour les brûlures, le mal de dents, pour un meilleur gouvernement, pour retrouver objets perdus, bourses volées, virilité, pour gagner ses procès sans frais et faire perdre ceux des autres, des dieux, des petits dieux pas chers, qui n'en a pas, messieurs, mesdames, de peur d'en manquer en ces temps, il est prudent d'avoir toujours un bon dieu dans sa poche. Voyez, messieurs, nous en avons pour tous les goûts, toutes les bourses. Mesdames, à tous les parfums, en sachets à glisser entre vos petits seins, en garniture de bureau, en presse-papier, ou bien montées en épingles de cravate. Voyez, messieurs, des dieux, prix réduit pour les familles, 100 sous la paire, 3 francs la pièce, un article très soigné. Prenez, mon prince, je le mets à 2 francs 95.
Ne faut pas oublier qu'il a quand même développé un projet de théâtre du peuple. Son théâtre de la Révolution, disait-il, devait être l'Iliade du peuple. Mais le peuple, c'est une communauté qui a conscience d'elle-même et que Romain Rolland, par le biais précisément d'une pièce comme Lilluli, d'une pièce colossale comme Lilluli, cherche à retirer du mécanisme qui va en faire une foule, et une foule hallucinée. Romain Rolland, tout comme Freud, est contre l'illusion, il est contre l'hallucination, et c'est très souvent ce qu'il dénonce dans ses pièces.
Romain Rolland l'a dit, mon être est un être profondément religieux. Même lorsqu'il est prisonnier du stalinisme, prisonnier de ce compagnonnage de route, il n'en reste pas moins l'homme d'une certaine mystique, qu'exprime quand même les vies de Vivekananda, de Ramakrishna. Il le dit lui-même, l'homme qui n'a pas la foi ne peut pas vivre, on ne peut pas vivre sans la foi, c'est déjà le Saint Louis de 1895. Or, à la fin de sa vie, Romain Rolland revient curieusement aux problèmes religieux. C'est l'époque où il renoue avec Claudel en 1940-41. C'est l'époque où il a plusieurs amitiés parmi un certain nombre de religieux, le père de Pailleret, le père Pichard, le père Bernard. C'est le moment où il se replonge dans les livres saints. On sait que sa dernière œuvre, ce n'est pas tant le Peggy que des entretiens sur les évangiles qu'il achève d'écrire à la fin de sa vie.
Sa formule clé, c'est « je crois, donc je suis ».
Oui, mais je ne crois pas en Dieu. Il y a là quelque chose de contradictoire chez lui. Il se veut l'homme de la raison. La raison, d'une certaine manière, dit-il, m'empêche de croire. Et cependant, toute sa vie n'est qu'un acte de foi. Et à la fin de sa vie, quand il est pris par la douleur de cette nouvelle guerre, en 42, en 43, que fait-il? Il joue Beethoven. L'opus 11, la sonate opus 11, les messes. Et dit-il, c'est la seule façon de s'échapper du présent et de retrouver l'éternel. Combien de fois Romain Rolland évoque l'éternel? L'éternel, c'est ce qu'il évoquait auparavant lorsqu'il parlait de cet océan de l'être. Mais cette fois-ci, surtout après sa maladie, en 42, mais cette fois-ci, Romain Rolland lui donne davantage un visage. Le panthéisme à la Spinoza ne lui plaît plus, il lui semble sec.
Attendez, le panthéisme à la Spinoza a été un moment déterminant, illuminateur de son existence. Il fait partie de ce qu'il appelle les trois éclairs qui ont illuminé sa jeunesse. C'est Spinoza qui l'a sauvé d'une sorte de dépression à la fois affective et idéologique, lorsqu'il dit que lisant l'éthique et l'image de Dieu, du Dieu de Spinoza, qui est le Dieu substance et non pas le Dieu des religions constituées.
Le soleil blanc de l'être. C'est un autre Dieu auquel il aspire. Non pas tant celui de Claudel auquel il ne peut pas se résoudre, mais c'est une autre religion. C'est une foi plus complète.
Dans une lettre à Georges Lénard, Autriche, du 8 mars 1928, publiée dans le choix de lettres intitulé « Un beau visage à tous sens », Roland déclare
« Tout est énergie dans mon art, ma pensée et mon être, et tout est passion de l'énergie. Ne me mêlez jamais au bêlement des troupeaux. Je veux de fortes âmes qui voient la vie comme elle est, qui l'aime comme elle est. Qui ose la prendre corps à corps et lutter avec elle, comme Jacob avec l'ange. Mais nous, nous finirons bien un jour par la ployer. Ceux qui se disent les violents, les partisans de la guerre éternelle entre les nations et les hommes, ne songent qu'à les entrechoquer brutalement, comme des béliers. Il ne faut pas pour cela beaucoup d'intelligence, ni même de vraie énergie. Nous, nous livrons une lutte bien plus rude, bien plus haute. Il s'agit pour nous d'harmoniser entre elles, de marier ces forces ennemies. Quel combat! Mais aussi, quelle victoire est au bout! Le mot d'Héraclite, dont j'ai fait ma devise, « Ecton diaferonton galisten harmonian » avec les dissonances, construire la plus belle harmonie.
Il y avait aussi une relation importante de Romain Rolland à sa mère. Et il est probable que, du côté maternel, une filiation affective s'accomplit qui rapproche Rolland d'un certain aspect du religieux, mais peut-être plus encore de la musique.
Il y a là, en effet, une relation très profonde et qui va, je crois, au-delà de la musique ou de la foi, mais qui va au plus profond même de la perception du sens de la vie. J'ai été frappé par deux textes. L'un du Voyage intérieur, où Romain Rolland parle de sa mère, en disant qu'il y a chez elle un pessimisme fondamental qui l'a fait en quelque sorte tomber, mais d'autre part, un optimisme vital qui l'a fait rebondir un petit peu, comme les ailes du papillon finissent par faire s'envoler le papillon. Or, dans son journal, il a un texte à peu près analogue le concernant. Il y a une parenté d'âme entre les deux êtres, un pessimisme fondamental, comme quoi la vie est une vie de mort. Et l'on se rappelle la mort, en effet, du premier enfant, et de la douleur de la mère, et de l'empreinte que Romain Rolland a gardée toute sa vie. Et sa mère a longtemps été, enfin, a toujours été durant sa vie, celle qui l'a guidé, quelquefois mal guidé. Il le reconnaît lui-même et il avoue, après la mort de sa mère, ou peut-être même, je crois déjà avant, il avoue que sa mère, par exemple, a regretté de l'avoir forcé à rompre avec Thalie. Thalie, c'est-à-dire la jeune américaine dont il s'était épris juste avant la guerre et avec laquelle il a vécu un moment à Genève, pendant la guerre. La mère de Romain Rolland a donc dit à son fils « Je voudrais qu'il y ait, lorsque je ne serai plus, qu'il y ait quelqu'un d'autre à ma place, et ce quelqu'un d'autre, c'est la sœur. Exit Thalie, revient en force la sœur. » Et après la mort de sa mère, le lien est devenu encore plus puissant et plus fort entre Madeleine, la sœur, et Romain, le frère.
Qui était une collaboratrice extrêmement efficace. Ça a été une femme de très grande envergure, Madeleine.
Oui, Romain Rolland reconnaît la fermeté de sa pensée, qu'il a dirigée plusieurs fois, et il lui rend souvent hommage. Et ce fut un drame, quelques années plus tard, en 28-29, donc 10 ans plus tard, lorsque vint s'interposer, je n'ose pas dire s'imposer, Maria Koudacheva.
La musique tient une place centrale, souveraine, dans l'œuvre, la pensée et la personnalité même de Romain Rolland. C'est dans la musique déjà que tout enfant, il trouve les ressources qui lui permettent de desserrer ce qu'il nomme le cercle maléfique de la mort. Il semble même qu'il ait voulu embrasser une carrière musicale, jugée par ses parents trop aléatoire. Après l'agrégation d'histoire, sa thèse de doctorat porte sur les origines du théâtre lyrique moderne, histoire de l'opéra en Europe avant Lully et Scarlatti. Il demeurera toute sa vie en contact intime avec la musique. Elle est présente, nous semble-t-il, dans son écriture, dans le rythme de ses phrases, dans la composition globale de ses textes. Il consacre différentes études aux musiciens d'autrefois, aux musiciens d'aujourd'hui, publie des biographies de Beethoven, de Handel. Mais son travail le plus considérable dans ce domaine est constitué par les 7 volumes d'analyse de l'œuvre de Beethoven, réunis sous le titre « Les grandes époques créatrices ». Une œuvre donc particulièrement imposante de musicologue et qui semble, Catherine Massip, être assez méconnue.
Vous avez dit qu'il n'avait pas fait de carrière musicale, mais dans une certaine mesure, il a fait une carrière musicologique, puisqu'il a été le premier titulaire de la chaire de musicologie, si je ne m'abuse, à la Sorbonne, qu'il a joué un rôle considérable dans la création des grandes associations de musicologues dans les années 1900. Il a été l'un des premiers organisateurs du congrès de musicologie de 1901. Et on se rend compte qu'il a eu une influence et qui s'est prolongée bien au-delà des années 1900-1910, puisqu'il a eu des disciples, par exemple, comme Henri Prunière, qui est une personnalité absolument dominante de la musique dans les années 1920-1930. Je crois qu'on peut considérer, avec notre regard actuel, que Romain Rolland est vraiment l'un des redécouvreurs, d'un des grands redécouvreurs de la musique baroque, puisqu'elle est parfaitement à la mode, comme vous le savez, depuis une vingtaine d'années. Et quand on se plonge aussi bien sur la thèse de Romain Rolland que sur ses cours à la Sorbonne, qui étaient consacrés par exemple à Lully, quand on voit les concerts d'œuvres qu'il a organisés, également d'œuvres méconnues, que ce soit de Lully ou même du jeune Liszt, on se rend compte qu'il avait une démarche très proche de celle que nous aurions à l'heure actuelle, c'est-à-dire non pas un commentateur ou un hagiographe de musiciens, mais au contraire un décrypteur et un descripteur des sources. Il est certain qu'il ne faudra pas non plus réduire le champ de ses curiosités musicales à la musique baroque et aux grands classiques, puisque nous nous rendons compte qu'il était très intéressé par la musique contemporaine, entre guillemets, et qu'il a consacré de très belles pages, par exemple, à Gustav Mahler, qu'il a découvert, en fait, nous dirions maintenant, en temps réel. Et il était manifestement au fait des dernières parutions d'œuvres, aussi bien en Allemagne que plus tard, par exemple, dans les pays de l'Est.
Dans, je crois, la pièce « Le 14 juillet », il évoque des musiciens en demandant qu'il y ait intervention
par exemple de Darius Milhaud ou d'Arthur Honegger.
14 juillet est un cas important parce que c'est une des grandes œuvres collectives inspirées par Romain Rolland, et dont nous avons d'ailleurs la partition au département de la musique. Et c'est une très belle partition, enfin une série en fait de pièces qui ont été écrites en particulier par les compositeurs du groupe des Six et qui naturellement ont été inspirées, je dirais, un peu par l'idéologie politique de Romain Rolland, qui dépassait très largement celle du milieu des écrivains. Non, ce qui est frappant dans sa bibliothèque que nous avons ici, c'est la part faite, bien sûr, aux musiciens classiques. Il avait une magnifique bibliothèque d'environ 1200-1500 partitions, mais également toute la part faite, comme je le disais, à la musique entre guillemets contemporaine. Il avait par exemple des partitions qui lui arrivaient de Russie, de musiciens, de compositeurs russes très importants. Et on a l'impression qu'il est parti d'une formation très classique. C'était un excellent pianiste. Il jouait les concertos de Mozart, il jouait Beethoven. Il aurait peut-être pu faire effectivement une carrière de pianiste, mais surtout, il a allié toute sa vie cette pratique de la musique et l'analyse de la musique.
On a souvent prétendu que, par exemple, un texte comme La vie de Beethoven était une sorte de commentaire romantique de la vie de Beethoven, et laisser plus ou moins de côté la substance proprement musicale de l'artiste. On peut dire au contraire que Rolland s'est attaché à la substance musicale comme telle.
Pour Beethoven, on peut dire qu'il y a eu deux types de démarches. Effectivement, il y a eu une biographie et il a repris, puisque finalement Beethoven est une sorte de grand thème qui est en filigrane tout au long de sa vie. Il connaissait parfaitement son œuvre, comme je le disais, il l'a pratiquée en tant qu'interprète. Il était en relation, nous le voyons grâce à sa correspondance, avec de grands musicologues allemands, avec qui il échangeait des informations sur les derniers développements de la science beethovénienne. Donc il s'est approprié, je dirais, les outils d'analyse contemporains. Et les grandes époques créatrices, ça n'est pas une biographie romancée de Beethoven, c'est vraiment une suite d'analyses de ses œuvres. Si l'on fait un peu abstraction de la personnalité de Romain Rolland, extrêmement généreuse, en tout cas dans sa façon de rédiger sur la musique, le cœur du travail est un vrai travail d'analyse et de connaissance intime, et je dirais technique, de la musique.
Il dégage les structures de l'œuvre, il dégage la spécificité des thèmes musicaux.
Il fait une étude,
au fond, structuraliste, pourrait dire.
Il fait une étude, je n'irai peut-être pas jusqu'au structuralisme, mais structurelle certainement. C'est une étude des formes. Il a évidemment une connaissance approfondie et très intuitive, très, très intelligente de l'évolution des formes. Donc il resitue évidemment parfaitement Beethoven dans une longue évolution. Évidemment, il n'aborde pas Beethoven sous l'angle psychanalytique, ça n'est pas encore l'époque. Mais il l'aborde sous l'angle déjà de la génétique des sources. Il s'intéresse à tout le travail qui est déjà engagé dans les années 20, précisément sur les carnets de conversation de Beethoven, sur les carnets d'esquisses qui commencent à être très bien connus, aussi bien en Allemagne qu'en France à cette époque.
Est-ce que, par ailleurs, il a suivi avec suffisamment de générosité ce qui se faisait comme invention ou l'inventivité musicale de son temps?
Vous pensez peut-être à l'école de Vienne. Alors je disais qu'il était très en prise avec la musique contemporaine, entre guillemets, mais je situerais néanmoins cette évolution, je dirais, jusqu'à la guerre de 14. Parce que aussi bien il connaît, j'ai cité les œuvres de Gustav Mahler, qui, nous devons le rappeler, ont été quand même relativement peu connus en France jusque dans les années 1950. Mais autant que je le sache, il ne connaît pas l'école de Vienne. Et je pense qu'il n'est pas le seul. Il aurait pu éventuellement assister aux concerts qui ont été donnés dans les années 20 grâce à Darius Milhaud ou à Jean Wiener. Mais par exemple, il n'a pas de partition de l'école de Vienne dans sa bibliothèque. Donc il est
certain qu'il a suivi ces mouvements contemporains. Il a suivi, par exemple, tout ce qui s'est passé dans l'école française des années 1880-1900. Il a assisté, par exemple, aux créations de grands oratorios de Gounod. Il a assisté à quelque chose de très important, qui ont été tous les concerts de musique russe. Un peu avant les ballets russes, il y a eu les premiers concerts de musique russe à Paris, et nous avons un programme annoté par Romain Rolland de ces concerts, où il avait précisément cette démarche analytique, c'est-à-dire ça n'est pas un auditeur passif, c'est un auditeur actif qui note, soit sur une partition quand il l'a, soit sur un programme, ce qu'il entend et les principales sections et caractéristiques de l'œuvre qu'il a. Nous avons la chance d'avoir un certain nombre de ces partitions annotées par Romain Rolland.
Lui qui a fait une thèse sur l'opéra en Europe, l'histoire de l'opéra en Europe, il ne semble pas qu'il ait accordé beaucoup d'attention aux différents opéras qui se jouaient en son temps.
On a apparemment peu de témoignages de Romain Rolland allant à l'opéra, assistant par exemple à la création de Péléas. Il aurait pu assister à la création de Péléas. Ça n'était pas effectivement un amateur d'opéra, mais néanmoins, n'oublions pas qu'il a été immergé dans une culture wagnérienne et qu'il a certainement eu une très grande admiration pour Wagner, très critique, je dirais, puisque nous savons qu'il était aussi un très grand admirateur de Berlioz. Ça n'est pas quelqu'un qui prend parti. Il est évident qu'il a une connaissance de l'œuvre de Wagner, ne serait-ce que par les partitions. Il connaît aussi l'œuvre de Richard Strauss, mais il ne semble pas effectivement qu'il ait assisté, je dirais, de façon régulière à ce qui se passait à l'Opéra de Paris. J'ai le sentiment que sa vie d'écrivain, de musicologue, le portait vers une discipline, une sorte d'ascèse de la vie quotidienne, qu'il n'incitait pas à participer à cette activité un peu mondaine, néanmoins, qu'est l'opéra.
Compte tenu de ce que vous appréciez dans le travail musicologique de Rolland, peut-on dire qu'à l'heure actuelle, il est une des références dans les études de musicologie ? C'est quelqu'un vers lequel on se tourne lorsqu'on veut tenter d'approfondir l'analyse d'une œuvre musicale ?
Je pense qu'on peut se tourner donc vers son travail de deux façons. L'analyse musicale qu'il a proposée de Beethoven reste une sorte de base indispensable qu'il faut lire, non pas forcément pour s'en inspirer, mais pour comprendre, je dirais, un moment de l'évolution de l'analyse de l'œuvre de Beethoven, dont nous avons évidemment maintenant une appréhension peut-être un peu différente et d'autres outils d'analyse. En revanche, il a ouvert des portes vers quelque chose dont on n'a pas encore parlé, vers un domaine que l'on pourrait qualifier maintenant de sociologie de la musique. Ses études, par exemple, sur la vie des maîtres de chapelle au XVIIIe siècle ne sont pas qu'anecdotiques. Il avait recueilli, comme toujours, beaucoup de documents sources, et il en profite pour faire une sorte de portrait assez saisissant et toujours important, je dirais utile pour les musicologues, sur le statut d'un musicien dans une société, je dirais encore un peu féodale, et sur les circuits, la circulation des œuvres, sur le rôle que jouaient ces musiciens ambulants qui allaient d'une cour allemande à une autre. Et là, il a eu une sorte d'intuition vraiment vers un champ de la musicologie qui s'est beaucoup développé au cours des dernières années.
Il n'a pas été seulement un musicologue extrêmement averti, comme vous l'avez largement démontré. Il y a aussi, dans son œuvre en général, une sorte de musicalité. Il est peut-être l'un des rares écrivains français qui a eu cet intérêt aussi considérable pour la musique et qui, en outre, a fait en sorte que la manière de traiter le texte, de manier l'écriture, reflète cette musicalité. Parce qu'on ne trouve pas tellement d'écrivains français qui aient cet intérêt aussi majeur et aussi déterminant pour la musique.
Si j'osais, je dirais qu'il y en a peut-être un autre qui est André Gide, qui était aussi un très beau pianiste, qui a laissé d'ailleurs des notes sur Chopin qui sont aussi passionnantes et qui, je crois, s'est aussi inspiré des structures et des formes musicales. Mais je crois que s'il y a un parallèle un peu osé à faire entre les deux, je dirais que cette connaissance intime des structures musicales, par exemple de la polyphonie, des grandes constructions que sont la fugue ou des constructions des formes sonates, il est certain que toutes ces structures musicales sont certainement en arrière-plan et sont très utile pour quelqu'un qui écrit et pour une construction littéraire. Je ne sais pas si on a déjà fait des analyses, des tentatives de rapprochement entre des études structurelles des textes et des formes musicales, mais je suis persuadée que l'on en trouverait dans Romain Rolland.
La manière la plus courante de qualifier Romain Rolland, c'est de dire tout simplement l'auteur de Jean-Christophe. Tant il est vrai que cette œuvre a joué un rôle proprement moteur dans sa notoriété, dans sa création, et lui a assuré d'emblée une notoriété internationale, au point qu'elle est traduite dans plusieurs dizaines de langues. Elle a joué aussi un rôle crucial pour de nombreuses générations. Ça a été pour beaucoup de lecteurs une sorte de roman d'initiation. Il raconte d'ailleurs dans Le Voyage intérieur comment il a eu l'illumination de cette œuvre. Il a vu, lorsqu'il était sur le Janicule, surgir la personne de Jean-Christophe. « J'étais penché sur l'esplanade qui domine les jardins Corsini, la conque de mes oreilles emplie de la musique fastueuse des fontaines. À mes pieds flambait la ville, rouge sombre en hémicycle, le sourire des monts Albins à l'horizon s'alanguissait. » Et là, la vision, l'homme Christophe avait surgi.
En réalité, le roman auquel songe Romain Rolland à l'époque, et qu'il va traduire dans Jean-Christophe, c'est le roman d'un héros qui peu à peu va prendre conscience de lui-même, de sa nature, de son être, qui est en fait une parcelle de l'être. Roman d'initiation, avez-vous dit ? Initiation à soi-même, découverte de soi, prise de possession de son être profond. Il naît au bord du fleuve, il meurt en se jetant dans le fleuve, d'une certaine manière. Enfin, son âme, j'entends. L'être, le petit être, se jette dans le grand être qui est l'océan.
Il y a un paradoxe. Prendre conscience de soi-même, il le fait Jean-Christophe, son nom c'est Jean-Christophe Kraft, Kraft qui veut dire en allemand la force, il le fait par la force de la musique, c'est-à-dire d'un objet qui n'est pas la conscience elle-même, un instrument, un art. Et par ailleurs, en même temps qu'il prend conscience de soi, il le fait aussi en relation avec le monde extérieur. Il observe ce qui se passe sur la place, la foire sur la place, l'observation de la société qui va susciter en lui un élan éthique de régénération, et cela encore une fois par la musique.
C'est un voyage initiatique. Ce sont les différents cercles de l'enfer même qu'il va falloir traverser pour aboutir enfin avec la Béatrice Grazia à la nouvelle journée. C'est donc bel et bien ce grand souffle que Romain Rolland va découvrir et nous faire découvrir. Jean-Christophe Kraft, l'homme de la force intérieure. C'est vrai. C'était le projet d'origine. Lorsque Christophe s'oppose aux siens en Allemagne, Romain Rolland est amené à parler de l'Allemagne, de son double visage, car l'Allemagne, c'est Goethe, c'est Schiller, mais c'est aussi la Prusse de son époque. C'est aussi la violence qui s'annonce. Et Romain Rolland s'aperçoit que peu à peu, il fait le portrait contrasté de l'Allemagne. Et voici que peu à peu entre un nouveau projet. Présenter l'Allemagne, présenter la France, et ensuite aussi l'Italie. Finalement, trois peuples. Je reprends les mots de Romain Rolland dans sa thèse, lorsqu'il parle de l'opéra. Trois races différentes. Il y a la race latine, la race germanique, la race française. Et c'est comme ça qu'il explique d'ailleurs la différence des trois opéras. Romain Rolland va essayer de discerner dans chacun de ces pays le génie. Et il va essayer de montrer que ces génies sont complémentaires. Le roman, et voilà pourquoi dans l'histoire du roman, c'est un roman important aussi, est sans doute le premier roman européen en France. Nous ne sommes pas des ennemis, dit-il. Nous sommes des amis. Il écrit ça en 1910-1911, alors que la forêt d'Europe commence à flamber, pour reprendre son expression. Au moment où les nationalismes s'exacerbent, Romain Rolland plaide, au contraire, pour une réconciliation franco-allemande. D'où Christophe Olivier, l'allemand, le français. C'est l'époque où Romain Rolland, en Italie précisément, rencontre Curtius, qui sera précisément lui aussi, il a vécu en Alsace, un pont entre la France et l'Allemagne.
Rolland a écrit, tout compte fait, un roman musical, une sorte de polyphonie où il a tenté de réaliser cette unité qui a été une des grandes obsessions de son existence. Dans cette polyphonie, il semble qu'il y ait quelques grincements, je dirais quelques couacs. Dans les notes relatives à Christophe, lorsqu'il évoque le monde parisien, le Paris juif et cosmopolite, lorsqu'il écrit qu'il y a face à la vraie France ceux qui sont des métèques, sémites, anarchistes et jouisseurs, cela résonne à nos oreilles d'une manière un peu inquiétante. Surtout si on lit à ces groupes de type communautaire l'influence démoralisante de la femme, qui a une importance, dit-il, absurde.
J'aime bien les sémites, ainsi que tous les hommes, quand ils valent d'être aimés. Mais je trouve fâcheux que la pensée primitive des Indo-Européens, ces grands créateurs religieux, et pour truchement principaux des hommes de cette race judaïque qui est imperméable à certaines des plus essentielles idées ariennes. Soit dit sans instituer entre ariens et sémites une comparaison que les préférences individuelles trancheraient de l'un ou de l'autre côté avec autant de raison. Le Vieux Testament, qui est notre bien commun, ne saurait m'être objecté, car le Vieux Testament, adopté par les chrétiens d'Europe, par Rome et par Genève, ajoutons-y Albion le troisième larron, a-t-on perdu de son caractère originel quand ce caractère n'a pas été complètement effacé, ainsi que dans notre éducation catholique de France, qu'il n'a presque plus rien d'hébraïque. J'ajoute, à titre personnel, que pour un enfant arien, chrétien, catholique comme je fus, c'est précisément ce que j'ai senti de sémitique dans la mande chrétienne qui m'a rebuté. Et je me suis trouvé d'emblée infiniment plus à l'aise dans la pensée hellénique ou dans celle des Ariens de l'Inde primitive.
Il y a chez lui, un, une tentation antisémite, deux, une misogynie, latente à certains moments de son existence.
Et sa première femme s'appelle Clotilde de Bréal, et c'est une juive.
Sophia est aussi demi-juive. Que de femmes juives, d'une certaine manière. Louise Crupie. Elle aussi. Bon. Il a été attiré et révolté à la fois par le monde juif. Suarez,
un grand ami de
Un grand ami avec qui il s'est brouillé. Il y a à la fois attrait et répulsion. Attrait dans la mesure où il voit un monde nouveau, répulsion dans la mesure où il en est déçu à un certain moment. La misogynie parce que, bien sûr, il y a le drame qu'avait prévu sa mère d'ailleurs, de son mariage et de son divorce. Alors qu'il y a eu ces tentations, c'est vrai, Mais c'est vrai qu'il y a le Blum. Rappelons que Blum va épouser Lise Bloch, qui est la grande amie de Clotilde Bréal. Et que Romain Rolland va reprocher à Léon Blum, le jeune dandy esthète, qui écrira en 1907 son fameux livre du mariage, l'influence pernicieuse qu'il aura sur Clotilde. Il y a un drame intime entre les êtres qui font que je reste prudent. Il y a eu une grave mésentente, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Blum et Romain Rolland, qui date de cette époque-là. Reconnaissons aussi que, en face du jeune dandy esthète brillant, Romain Rolland, le pauvre, malheureux, renfermé sur lui-même, il y avait une incompatibilité d'humeur évidente. Ceci étant, il y avait un problème moral entre eux et un problème humain qui a failli aller, il me semble, sous toute réserve, jusqu'au duel, qui n'a pas eu lieu. Mais Romain Rolland s'est senti offensé, cruellement offensé. Et il me semble même ne pas me tromper en disant qu'à un certain moment, l'anniversaire de son mariage, elle est dans cette maison où je ne mettrai pas les pieds. Vous avez cité des notes, on ne retrouve pas dans le roman, parce que précisément l'homme a repris le dessus. Et les notes ne sont qu'un creuset. Même chose pour la misogynie. Comprenons le drame qu'il a vécu après les années 95, entre 95 et 1901, et en particulier au moment de la rupture en 1901, Romain Rolland est amer. C'est le moins qu'on puisse dire. Il vit, vous parliez tout à l'heure de dépression, il vit dans une dépression dont Beethoven le sauvera. Et c'est alors qu'il écrit de ces phrases cruelles, brutales, dont on trouve le reflet à propos d'Olivier. Mais ce n'est pas pour autant que Romain Rolland définitivement prend cela à sa charge, car il a écrit sur certaines femmes, que ce soit Sophia, Gracia, que ce soit Louise Crupy, des pages admirables, et qui sont loin de toute misogynie.
Et le plus admirable, c'est tout de même qu'il a créé un personnage de femme qu'il qualifie tout simplement de l'âme enchantée. L'âme enchantée, c'est une femme, c'est un être rivière qui est un des plus beaux portraits de femme de la littérature. Et de ce point de vue-là, il est vrai que les notes ne font pas le poids face à la création.
En ces temps, se levait en France la première vague d'antisémitisme. Drummond brandissait la torche incendiaire de ses sanglantes diffamations. Je ne me demandais point les raisons obscures de politique, de religion, d'argent, qui attisait le feu. J'étais blessé dans mon humanité, et ma blessure me cuisait d'autant plus que par ma naissance catholique, je me tenais pour responsable de l'injustice que les catholiques faisaient aux autres. Je brûlais de la réparer envers cette race juive que je connaissais encore si peu. Et un esprit de chevalerie me jeta avec passion dans l'amitié de Suarez. J'avais pu voir au sein même de l'école normale les perfidies et la hideur de haine rentrer, où des camarades par ailleurs estimables et intelligents pouvaient être entraînés par l'antisémitisme. Et contre cette peste, j'avais, avec quelques amis, mené un combat sans ménagement. Peu après mon retour de Rome, quand dans mon cœur s'allumaient les premiers feux de l'amour pour une belle fille d'Israël, j'avais été bouleversé par la bassesse injurieuse des attaques de presse contre les Juifs. Elle propageait dans le peuple de France le poison. Je me rappelle en avoir exprimé dans la rue mon émotion au frère de celle que j'aimais. Lui ne s'en émouvait guère. Il prenait tout en bouffonnant. J'aurais été prêt à offrir mon sang pour la défense des innocents persécutés. J'offris ma main. Et je fus aux anges qu'elle fut acceptée.
Romain Rolland a toujours entretenu des rapports très forts et très conflictuels avec l'Allemagne. Plus exactement, avec la culture allemande, qui inclut l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse alémanique. À Rome, lorsque jeune agrégé, il se rend pour rassembler des documents en vue de sa thèse de doctorat, il fréquente le salon d'une dame très distinguée, Malvida von Meisenburg, qui lui sert de guide et de mentor. C'est l'amie de Nietzsche, de Wagner et d'autres artistes illustres. La première biographie, rédigée par Rolland, est consacrée à Beethoven et elle connaît un succès considérable. Le héros de son grand roman, Jean-Christophe, est un musicien allemand. Et c'est très précisément en lisant Jean-Christophe que l'écrivain viennois Stefan Zweig découvre avec enthousiasme l'œuvre de Rolland. Il qualifie Jean-Christophe le premier grand roman européen. Les deux hommes sont à l'évidence fort différents par leur formation, leur milieu, leur personnalité, leur style, mais ils demeurent très proches par diverses préoccupations que l'on pourrait peut-être regrouper en disant qu'ils représentent, dans toute la force du terme, deux grands intellectuels européens. Vous avez préfacé, Serge Niemetz, la réédition de la biographie de Rolland par Stefan Zweig et vous êtes vous-même l'auteur d'une biographie de Zweig. Est-ce que vous pensez que cette dimension européenne constitue un facteur déterminant dans les relations d'amitié, d'estime mutuelle qui ont marqué de façon durable, quelquefois malaisée, les rapports entre les deux hommes?
Européen, de façon différente, alors très très profondément, certes. Mais d'un côté, nous avons Zweig, qui est attaché à la vieille Europe, qu'il croit éternelle. Rolland, plus âgé de 15 ans, formé dans la France de la défaite de la ligne bleue des Vosges et de la préparation de la revanche, grandit dans l'idée de sa propre mort dans une guerre probable, a une conscience très précoce des menaces qui pèsent sur l'Europe et du fait que peut-être bientôt l'horizon européen ne nous suffira-t-il pas. Et alors que Zweig va rester tourné vers le passé, on va voir Rolland se tourner vers l'ailleurs en espérant y trouver la préservation d'un héritage européen. Comment transmettre cet héritage en intégrant aussi l'apport des autres civilisations? Le grand moment de la rencontre, cela apparaît très clairement à la fois dans l'autobiographie de Zweig et dans sa biographie de Rolland, c'est la Première Guerre mondiale, puisque c'est là que vraiment tout bascule. Et c'est là aussi que Rolland va vraiment entrer dans l'existence de Zweig comme espèce de conscience extérieure extrêmement exigeante, en même temps qu'il va le tirer d'une dépression profonde, de doute ou d'attitude équivoque quant à la guerre. Ils vont se rencontrer en Suisse, hors de ce monde en guerre, et selon la formule de Rolland, au-dessus de la mêlée. Dans une ultime tentative pour sauver des valeurs humanistes communes, composées de tout un héritage, que je dirais très sommairement judéo-chrétien, puis des Lumières, et je dis très sommairement judéo-chrétien, et aussi très sommairement des Lumières, parce que quand on parle de Rolland, les choses sont toujours beaucoup plus compliquées. Bon.
C'est alors, aussi assez compliqué du côté de Zweig, qui est juif,
oui.
Qui a cette culture austro-hongroise de l'Autriche, qui est très riche et qui est elle-même marquée par toute une série de conflits qui ont trouvé leur manifestation à certains égards dans la pensée de Freud, par exemple, à laquelle Zweig, mais aussi bien Roland, attachait une très grande importance.
Chez l'un comme chez l'autre, c'est une importance qui reste assez théorique. Les rapports entre Zweig et Freud, Roland et Freud, ne sont certainement pas des rapports de disciple à maître. Il y a une reconnaissance de l'apport freudien, il n'y a certainement pas un conformisme freudien, et il y a moins encore, ce qui est tout à fait surprenant chez des gens qui ont pratiqué la biographie et dans une moindre mesure, mais fort intéressante pour Roland, l'autobiographie. Il y a d'un côté l'idée que ce serait bien intéressant de produire une biographie de type nouveau, une autobiographie de type nouveau. Et Roland, dans les années 20, envisage une autobiographie des mémoires dans la manière du XVIIe siècle, dit-il, mais avec en plus la psychanalyse. De même, chez Zweig, hommage, ouvrage consacré à Freud, mais quand il s'agit de passer à l'autobiographie, on fait tout son possible pour laisser de côté les interrogations auxquelles on serait confronté si on cherchait à pratiquer une auto-analyse.
On a évoqué le terme d'humanisme, oui. Qui revient très fréquemment concernant la manière de caractériser Roland, le grand humaniste, l'humaniste européen, voire même l'humaniste cosmopolite. Quelles sont les réalités et les productions concrètes qui permettent d'avancer ce terme, encore une fois, quelquefois un peu galvaudé?
Alors, la rencontre, ce qui va être les maximes essentielles autour desquelles, sur lesquelles Zweig va rallier Roland, c'est exigence de compréhension, connaître les hommes et cependant les aimer et les aider. Pour reprendre une formule de Roland, que Zweig fait sienne. Chercher tous les moyens de développer les relations avec ce qui nous est le plus étranger, parce que, étant humain, cela enrichit aussi notre propre humanité. Alors, sur tous ces points, ils se rejoignent. Ils se rejoignent également sur une révolte, sur le refus des fausses valeurs, des hypocrisies, notamment en matière de morale sexuelle. Il y a une exigence de vérité, de sincérité, qui leur est commune.
De force qui donne son nom à son héros, Jean-Christophe Kraft, la force,
oui.
C'est peut-être ce qu'il a cherché à dégager et à mettre en lumière en se livrant à un travail rédactionnel très particulier constitué par les biographies. Biographie de Beethoven, biographie de Tolstoï, de Handel, de Michel-Ange. Est-ce qu'il ne recherchait pas fondamentalement à se ressourcer dans la force d'autrui pour se confirmer soi-même?
Certainement. Certainement, on pourrait dire que il va chercher à être lui-même une exception héroïque entre les bien portants et les malades, être un malade qui produit, qui crée, et qui donc en créant tue la mort, plus que la plupart des bien portants.
Plutôt que le terme de force, peut-être faudrait-il
énergie.
Énergie, voilà.
Oui, oui.
tout est énergie dans mon œuvre. Parce que force a une connotation quelquefois un peu inquiétante. Oui. Énergie est plus enracinée dans le biologique. Exactement. Et vise des valeurs morales beaucoup plus nettes.
Oui, oui.
Tandis que Zweig, quand il fait des biographies, il en a fait pas mal. Mm-hmm. Il a un point de vue tout à fait différent.
Oui, il y a chez Zweig deux types de biographies. La biographie héroïque, dont le prototype est la biographie de Roland, présenter un modèle. Bon. Et puis, il y a des biographies d'hommes de lettres dont il considère parfois qu'elles ne font pas vraiment partie de son œuvre sérieuse, que c'est un peu de la littérature du second degré, du second rayon.
Marie-Antoinette. Et
Marie-Antoinette, par exemple. Alors, dans ces biographies vie héroïque, Roland cherche, et aussi pour lui-même, à montrer des personnages qui, par une énergie supérieure, dominent un destin contraire, et parfois en s'imposant à eux-mêmes les pires difficultés, comme dans le cas de Tolstoï, arrivent à fournir des exemples sublimes d'humanité.
Il est intéressant de comparer la fin des deux hommes.
Oui.
La mort de Roland et la mort de Zweig.
Zweig, c'est au terme d'une fuite à l'écart de cette Europe morte. D'abord en Angleterre, qui n'est plus vraiment pour lui l'Europe, hein, qui n'a jamais été pour lui l'Europe. Puis aux États-Unis, puis au Brésil. Il s'achemine vers un suicide dont on peut penser qu'il serait survenu un peu plus tôt, un peu plus tard. Mais c'est un vaincu. Dès le début des années 30, c'est un personnage qui va vers cette mort qui sera pour lui une façon de récupérer sa liberté autant que faire se peut.
Et donc Zweig meurt au Brésil, loin de sa Vienne natale, ce qui est au fond une certaine expression d'un cosmopolitisme agonique en quelque sorte, tandis que Roland, lui, meurt à Vézelay en 1944, dans le pays où il a ses racines les plus profondes. On a l'impression que la mort, comme le disait d'ailleurs Roland lui-même, éclaire ce qu'a été la vie. Ce que l'on a retenu, surtout du passage de Romain Rolland en Suisse, c'est le fait qu'il s'est opposé avec vigueur et vraiment originalité au phénomène de la guerre. En est sorti ce recueil de textes intitulé « Au-dessus de la mêlée ». La Suisse est devenue ensuite une sorte de centre international où Roland recevait des personnalités éminentes, une documentation extraordinaire et d'où partait une correspondance extrêmement fournie. On néglige le fait que lorsqu'il était en Suisse, au tout début de la guerre, il a travaillé à une agence de prisonniers d'une manière bénévole en tant que militant et il a effectué un travail assez précieux. À ce travail, vous avez consacré vous-même une thèse. Quel a été réellement le comportement de Roland dans le cadre de cette agence de prisonniers et en quoi cela peut-il avoir des liens ou des répercussions avec le phénomène de la guerre ? Claire Basquin.
Donc au moment de la déclaration de guerre, Romain Rolland se trouve en Suisse, comme à son habitude. Il pensait donc y passer l'été pour se reposer après la rédaction de son roman Colabrugnon. Et il est donc au bord du lac Léman, dans une petite ville qui s'appelle Vevey. Or, la déclaration de guerre le surprend alors qu'il se trouve là-bas. Et les premiers jours, si l'on se fonde sur ses écrits et notamment son journal des années de guerre, on remarque qu'il est très incertain quant à ce qu'il s'agit de faire. Il pense tout d'abord à se mettre à la disposition du consulat français de Genève, où il a d'autres idées de ce type-là pour venir en aide au fait à une population qui se trouverait là. Mais c'est finalement à l'Agence internationale des prisonniers de guerre qui décide de participer. L'Agence des prisonniers de guerre a pour vocation de chercher à faire un lien entre les prisonniers de toutes les nations et les familles qui recherchent ces prisonniers, qui sont soit portés disparus, soit en captivité. Ce sont donc des milliers de fiches qui sont établies et qui permettent donc de faire le lien entre les prisonniers et leurs familles qui les recherchent. Donc on retrouve dans une lettre à ses amis qui date du 24 septembre 1914 une première mention de ce travail à l'agence. Et l'on peut donc dire que le fait que Romain Rolland ait choisi de rester en Suisse et de s'installer en Genève est directement dicté par la volonté de travailler à cette agence des prisonniers de guerre.
Mais le travail à l'agence de prisonniers l'occupe
voilà.
Beaucoup.
Oui,
l'occupe. Quel est son rythme de travail ?
C'est un travail quotidien, mais uniquement les après-midi, pendant en tout cas les 9 premiers mois de son travail là-bas.
Il a un bureau ?
Non, il n'a pas un bureau, il travaille avec les autres collaborateurs dans des salles de fortune. Cette agence a été installée dans les premiers temps dans le musée Rat, musée d'art égyptien qui se trouve à Genève. Et les conditions ne sont pas très, très bonnes puisque tout a été fait de façon assez approximative. Cependant, le seul particularité peut-être de son travail, c'est qu'il est installé avec le docteur Ferrière qui est le directeur du service des civils où il travaille plus particulièrement. Et c'est peut-être cela aussi qui l'a amené à travailler aussi longtemps à cette agence, puisque très vite il se lie d'amitié avec ce médecin suisse qui a de la guerre les mêmes idées que Rolland.
Et en dehors de ce travail, quelle est son autre activité ?
En dehors de son travail, c'est une activité personnelle qu'il continue. Donc il veut au cours de la guerre prendre des notes sur tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, donc notamment ce qu'il voit et entend à l'agence, pour consigner tout cela dans son journal des années de guerre qu'il a commencé à écrire pendant la guerre, à qui il a donné le sous-titre de « Notes et documents » pour servir à l'histoire morale de l'Europe de ce temps.
Ce passage à l'agence des prisonniers a permis à Rolland de recueillir d'importantes informations.
Oui, effectivement, puisque le fait d'être proche, comme je le disais, du docteur Ferrière lui permettait d'avoir accès à des documents quelque peu confidentiels, comme par exemple des rapports de délégués de la Croix-Rouge en mission dans les camps de prisonniers. Et c'est à ce sujet d'ailleurs qu'il formulait quelques critiques à l'encontre de la Croix-Rouge, puisqu'il se rendait compte que des violations étaient faites quotidiennement à la Convention de Genève, et la direction de la Croix-Rouge se refusait à faire connaître ces violations. Lui pensait que la Croix-Rouge, comme d'ailleurs la Suisse, les États-Unis, tous les pays qui pouvaient se réclamer d'une certaine neutralité, devaient intervenir dans le conflit et tenir leur rôle au fait de pays neutre. Donc c'est un reproche qu'il a formulé à l'encontre de la Suisse. C'est le même reproche qu'il a formulé à l'encontre de la Croix-Rouge, qui pour lui aurait pu réveiller les consciences, faire connaître les violations à la Convention de Genève et faire avancer les choses.
Et sa position à l'égard de la guerre a probablement été marquée profondément par son passage à l'agence de prisonniers de guerre, comme bilan que l'on peut faire de son activité.
Je pense qu'il faut bien sûr lier cet engagement à l'engagement de ces articles, puisque dans l'ensemble du recueil de ces articles de guerre, on trouve trace de ce travail à l'agence. C'est ce travail qui lui permet de prendre la parole. Et je pense qu'il est vraiment important de lier les deux aspects, donc l'engagement dans les articles et l'engagement à l'agence des prisonniers.
Maria Koudacheva, devenue Madame Marie Romain Rolland, attachait une très grande importance à la publication d'un bulletin qui rassemblait une masse d'informations concernant le rayonnement de l'œuvre de Rolland dans le monde entier.
Et cette publication, malheureusement, a cessé avec la mort de Marie Roland. Et voici que depuis quelques années, on voit paraître un bulletin intitulé « Cahier de brèves » dont vous êtes, Martine Liégeois, l'une des fondatrices et l'une des responsables. Est-ce que le projet de Marie Romain Roland est à sa manière repris par les cahiers de brèves ?
Dans l'esprit, il y a la même démarche, c'est-à-dire essayer de recenser ce qui est écrit sur Roland, essayer d'indiquer toutes les manifestations qui peuvent encore avoir lieu. Ce bulletin, petit à petit, devient de plus en plus alimenté parce que nous avons eu la chance que des universitaires, dès le départ, nous fassent confiance et nous donnent leurs articles, nous donnent des textes. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'articles maintenant qui nous sont proposés.
Marie Romain Roland tenait particulièrement à l'aspect international de son bulletin et elle sollicitait vraiment des collaborations de tous les pays du monde. Est-ce que vous avez pu, de votre côté, recueillir précisément des informations, disons, planétaires, alors que le bulletin s'appelle « Cahier de brèves ».
Il existe à notre connaissance trois pays dans lesquels il y a des associations. Alors, il y a l'association japonaise qui est extrêmement importante en nombre d'adhérents, l'Institut Romain Roland de Kyoto, qui a été fondé par le professeur Miyamoto, et c'est toujours Madame Miyamoto qui s'occupe de cet institut. Il y a l'association des amis de Romain Roland en Allemagne, qui était organisée, qui était animée par Marie Le Kidding, qui était notre amie et qui nous a aidés, qui nous a inspirés aussi beaucoup pour la création de cette association en France. Et puis, il y a en Bulgarie aussi une association des amis de Romain Roland. Donc, nous sommes en termes amicaux, proche. Madame Miyamoto m'a adressé ces jours-ci une correspondance extrêmement intéressante de Marie Romain Roland à Monsieur Miyamoto au moment où il fondait cette association au Japon. Et on voit de façon très touchante l'exigence, la force de Marie Romain Roland pour faire vivre la pensée de son mari, pour être toujours extrêmement attentive à la liberté qu'il avait en lui et au fait qu'il ne soit absolument récupéré par aucune chapelle. Et donc là, elle nous a envoyé cette correspondance. Comme Madame Savova de Bulgarie, qui nous a aussi envoyé une correspondance avec des écrivains bulgares. Il y a le professeur Reinhardt de Suisse, qui nous a adressé une correspondance entre des pasteurs protestants et Romain Roland aussi.
Et vous avez des projets précis?
Oui, alors notre association s'appelle Mémoire et Rencontres autour d'un grand européen, tout simplement parce que ce qui nous semble très important, c'est l'aspect vivant. Nous aurons au mois de juin prochain Antoinette Blum qui nous parlera de la correspondance Roland-Baudouin. C'est un ouvrage qui vient de sortir il y a assez peu de temps et qui a donné aussi là de Romain Roland une vision extrêmement familière et chaleureuse, enfin un aspect peut-être un peu moins connu. Et ensuite, au mois d'août, nous nous rendons à Calve, parce que la ville de Calve en Allemagne, qui est la ville natale de Hermann Hesse, enfin, il y a toute une grande année pour le 125e de la naissance de Hermann Hesse, et la ville de Calve, donc, avec la ville de Clamcy, les deux villes natales de ces grands écrivains, va organiser des rencontres. Donc, en fait, on est toujours très attentif à conserver ces moments de rencontre, parce que ce sont des moments dans lesquels on va retrouver aussi bien des spécialistes que des gens qui ont envie de découvrir, qui s'interrogent, parce que Romain Roland appelle des interrogations constantes, l'œuvre est énorme, et à chaque lecture, on peut être déstabilisé, parce que la lecture précédente est remise en question, et on a besoin des éclairages que nous donnent justement quelquefois les spécialistes.
Une vie, une œuvre, Romain Roland, l'Européen, une émission de Roger Dadoun, avec la participation de Claire Basquin, École des Chartes, Bernard Duchâtelet, Université de Brest, Martine Liégeois, Cahier de Brèves, Catherine Massip, Département de Musique, Bibliothèque Nationale, Maryse Mathé, Théâtre, Serge Nimetz, chargé de mission, Académie Française.
texte lu par Gérard-Henri Durand. Groupe de réalisation, Christine Berlamont, Noélie Pellegrin, Stéphane Touvenin.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 février 2002. Rappelons que depuis lors, fin 2012, le journal inédit de Romain Rolland, le journal de Vézelay 1938-1944, édition établie par Jean Lacoste, est paru chez Bartilla.
Oh, you did it all again. something.